Vous écoutez
Serial Causeur.
Vous ne m'attendez à rien et je suis quand même déçu.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur. En quelques années, Joss Whedon est passé de génie à gênant. Que s'est-il passé? Vous êtes perdu? Vous vous demandez pourquoi Justice League a un rapport avec Buffy? On vous explique tout et on vous ouvre les portes des états généraux des Whedonistes et autres sériphiles. Avec moi ce soir, Serenaki.
Oui, coucou.
Stéphane Gell.
Et bonjour.
Maxi Fly.
En espérant pas être annulé au bout d'une saison.
Et pour nous éclairer vers la voie de la sagesse, celle qui n'a de cesse d'analyser et défendre Buffy, celle qui ne peut pas rester assise quand on parle de Buffy, Yaël, l'élu, experte en pop culture. Bonjour et bienvenue Yaël.
Bonjour. Super présentation, merci.
Alors, rapidement, je vais essayer de vous résumer l'affaire et ensuite, on ouvrira le débat. Alors, en juillet 2020, Ray Fisher, interprète de Cyborg dans le film Justice League, dont le tournage repris par Joss Whedon après le départ de Zack Snyder, a déclaré que les agissements de Joss étaient, je cite, « grossiers, abusifs, non professionnels et totalement inacceptables ». Le même mois, James Masters, l'interprète de Spike dans Buffy, raconte une expérience avec Joss dans l'émission de Michael Rosenbaum, qui jouait Lex Luthor dans Smallville, et qui montre le côté un peu sanguin du père Whedon. Alors, ce 10 février, Charisma Carpenter, Cordelia, poste un long message qui explique ce qu'il s'est passé il y a une vingtaine d'années et qui la hante encore. Alors après ça, Sarah Michelle Gellar, James Masters, Boreanaz, Benson, Kramer, Dushku, Strong, Bush, Lenk et Trachtenberg, j'ai du mal, pardon Michel, ont apporté leur soutien. J'en oublie peut-être certains. On peut remonter aussi en 2017, en l'ex-femme de Joss Whedon, Kay, alors je ne sais pas si on dit Kay.
Kay
Cole dévoile le vrai visage de son ex-mari, un homme qui se cache derrière l'image d'un féministe ou qui aurait eu quelques relations charnelles avec certaines actrices. On peut remonter même à 2009, où alors invité au Dragon Con, Charisma Carpenter raconte déjà son expérience. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Alors là, la première question, c'est comment en 2021, on encaisse le coup toutes ces années après? Yaël, toi, quand tu as entendu... Bon, après, l'affaire date maintenant de quelques années, mais par rapport au message de Charisma Carpenter, toi, comment tu as réagi?
Je vais essayer d'être très concise pour parler d'un truc très compliqué. Je tiens à préciser que beaucoup de ces déclarations sont parfois ambiguës et soutiennent sans vraiment dire ce qui s'est passé, les opinions des uns et des autres. Ouais. Donc en réalité, c'est beaucoup plus nébuleux et vague et pas clair. Les trois personnes qui ont vraiment parlé ouvertement, c'est Kay Cole, l'ex-femme, Charisma Carpenter et Ray Fisher. Et encore Ray Fisher, pas vraiment en détail.
Michelle Trachtenberg a quand même insinué plus, enfin posé qu'insinué. Oui.
Insinué quelque chose qui n'est pas clair et qui d'ailleurs entre-temps a été clarifié comme quelque chose de différent de ce qu'on aurait pu penser que c'était.
Oui.
Voilà, donc voilà, je dirais que dans les trois cas, on parle de perceptions que j'imagine totalement véridiques, mais d'expériences personnelles et de perspectives personnelles. Et qu'on, dans beaucoup de cas, notamment dans le cas de Kay Cole, il y a beaucoup de procès d'intention plus que de faits avérés. Et du coup, en général, ce que tout ça m'inspire, un, que la vie est compliquée, le monde est complexe. Ça m'inspire, deux, que quelles que soient les valeurs de quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de parfait dans ses actes, dans sa vie. Trois, que Charisma Carpenter, on a n'importe qui a vraiment regardé Angel et qui s'est intéressé à la série, sait qu'il y a eu un problème à ce moment-là parce qu'il y a un problème dans le traitement même de son personnage. Donc, ça paraît évident qu'à ce moment-là, il y a eu un gros problème et que clairement, elle a été punie parce qu'elle est tombée enceinte, que ce soit conscient ou inconscient, et que automatiquement, ça, c'est un acte sexiste. Sauf que c'est aussi un acte extrêmement normalisé à l'époque et je dirais même normal. Et j'en arrive à mon dernier point. C'est que énormément des choses dont on parle aujourd'hui et qui sont, oui, problématiques et inacceptables sont aussi des choses qui étaient extrêmement courantes et qui sont encore courantes. Et donc, oui, ce sont des questions très importantes, mais pour moi, le vrai sujet, c'est pas Joss Whedon, le vrai sujet, c'est la misogynie généralisée et le mauvais traitement des acteurs dans le cadre de l'industrie du cinéma dans tous les pays et que il y a un problème systémique dont il faut parler parce que si on considère que c'est pas acceptable, faut arrêter de l'accepter. Après, spécifiquement vis-à-vis de Joss Whedon, j'ai rencontré Joss Whedon une fois dans ma vie, je ne le connais pas en tant que personne, je ne sais pas comment il a agi. Même, je suppose que c'est quelqu'un, du coup, de colérique, qui a probablement fait des trucs désagréables, qui a probablement utilisé, qu'il en ait conscience ou pas, son pouvoir et qui a fait des gens se sentir mal. J'ai jamais imaginé qu'une personne qui parle autant de rédemption, d'obscurité, de problèmes d'autorité et de l'éthique du pouvoir n'ait pas des côtés sombres. Enfin, il y a plein d'auteurs que j'adore qui racontent des choses très différentes, dont je n'attends pas ces côtés sombres. De sa part à lui, le jour où Keiko a écrit sa lettre en disant « bah en fait, c'était un homme infidèle », moi, j'ai eu l'impression que ça expliquait énormément de choses sur son travail. Donc, pour moi, il n'y a pas l'idée d'un masque qui tombe. Pour moi, il y a l'idée de devoir faire face avec ce que j'imaginais déjà être dans sa vie, avoir peut-être eu de l'effet sur d'autres gens que j'admire, et du coup, la peine et la compassion que je ressens pour ces gens qui ont eu ces expériences-là.
Je t'avoue que je suis assez étonnée par ce que tu dis. Donc, c'est vrai que j'aurais cru que tu allais plus le culpabiliser, peut-être. Après, on n'est pas là pour spéculer sur sa personnalité, sur lui, quoi. Mais ce que je veux dire, une personne, justement, qui a écrit des choses aussi féministes, qui est censée être un pionnier dans son genre, normalement, tu as aussi conscience, même si à l'époque, c'était des faits normalisés, même malgré ça. Au contraire, tu devrais avoir cette conscience de tes actes et ne pas rentrer dans le moule et justement ne pas adhérer à ce côté systémique, en fait. Dans ce cas-là, t'es pas un pionnier, en fait. T'es juste un mec lambda qui a eu un coup de génie, effectivement, et qui n'applique pas ce que tu prêches.
Alors, c'est un pionnier. Alors déjà, c'est un pionnier féministe vis-à-vis des gens qui analysent son travail, pas vis-à-vis de ses propres paroles. Ça, c'est aussi un mythe qui est colporté dans l'intégralité des articles qui sont écrits sur Joss et de la lettre de Kai Cole. Je veux dire, Joss Whedon, à n'importe quelle occasion, a dit qu'il n'était pas activiste, qu'il ne trouvait pas ce féminisme remarquable, qu'il n'avait jamais trouvé ça. Et d'ailleurs, moi, je le dis depuis des années et je l'ai écrit aussi dans le mémoire que j'ai écrit sur Buffy. La thématique de Joss, ce n'est pas le féminisme. La thématique de Joss, c'est l'éthique du pouvoir. Il s'intéresse aux personnages féminins parce que c'est des personnages qui lui permettent de raconter plus d'histoires, et parce que pour lui, il l'a souvent dit, et c'est vrai avec le racisme aussi, il l'a dit récemment, qu'à l'époque, il était extrêmement naïf, et que vu la façon dont il a grandi, il n'a pas réalisé l'oppression systémique, il pensait que l'égalité entre les hommes et femmes était normale. Et je pense qu'effectivement, t'as raison, c'était sa responsabilité de s'en rendre compte, mais clairement, ce qu'on sait maintenant, c'est clairement, il se réalisait pas ce qu'il faisait, et on aurait voulu qu'il le fasse. Quand je dis que Joss est féministe, c'est parce que son œuvre l'est, et son œuvre la reste.
Et pour moi, il y a aussi une chose qui vient aussi du public, c'est qu'on projette en fait sur Joss Whedon l'amour qu'on a pu avoir pour son œuvre. Donc en fait, on en vient à glorifier la tête pensante comme on glorifie son œuvre. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Parce que Joss Whedon, comme tu disais bien, Yael, c'est une personne et il a des côtés sombres et il a aussi ce talent de génie. Mais il n'est pas tout seul pour construire cette série. On aime la série pas que pour son écriture, on l'aime aussi pour les acteurs, pour toute l'équipe technique qu'il y a derrière. Et du coup, moi, j'ai l'impression, en tout cas, ça rejoint ce que je pense, c'est d'avoir glorifié un homme au regard de ce qu'il avait fait dans sa vie. Une œuvre, en tout cas, qu'il avait fait dans sa vie. Et maintenant, je me dis, en fait, non. Buffy, je l'aime aussi parce que derrière, il y a eu toute une équipe, il y a eu tout un microcosme qui a construit cette œuvre féministe, qu'on peut percevoir comme féministe. Donc, il n'est pas le seul garant de la qualité d'une série et de son impact. Enfin, pour moi, ça revient à ça. Donc.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, moi, je suis passionnée par Joss Whedon en général. C'est-à-dire que moi, toute l'œuvre de Whedon m'intéresse, tout ce qu'il fait m'intéresse. Et après de nombreuses réflexions sur la question ces dernières semaines, et malgré toute la compassion que j'ai vraiment pour Charisma Carpenter, je suis sûre qu'elle a été lésée, qu'elle a été maltraitée, qu'elle a été traumatisée. Je suis sûre que les gens qui disent qu'ils ont une mauvaise expérience ont une mauvaise expérience. Mais en réalité, je suis toujours autant passionnée par Joss Whedon et toujours intéressée par ce qu'il a à faire. Alors, c'est peut-être une conversation pour plus tard, mais pour la suite du podcast, mais j'avoue que si je m'intéresse à Joss Whedon, c'est aussi parce que je lui ressemble, en fait. Moi, ce qui m'intéresse dans Joss Whedon, c'est pas juste qu'il ait fait Buffy, c'est que après avoir aimé Buffy et découvert les autres trucs qu'il a fait et avoir écouté ce qu'il écrit, il y a des choses dans sa personnalité, y compris dans ses parts d'ombre, qui me parlent, qui m'évoquent des parties de moi-même. Et du coup, je suis passionnée par ce qu'il va peut-être écrire un jour, j'espère, parce que j'ai l'impression que maintenant, qu'il a plus à se cacher sur toutes les choses pourries qu'il a fait dans sa vie, et ben peut-être qu'il va écrire des vrais trucs sur ce que encore plus vrai sur la rédemption et sur les questionnements. Et du coup, je suis encore plus passionnée que jamais. Mais parce que mon lien à Joss Whedon est, mais tout à fait d'accord, Maxime. Buffy, c'est l'œuvre de plein de gens. Et d'ailleurs, quand j'écris sur Buffy en termes d'écriture scénaristique, je parle souvent du fait que, plus que beaucoup d'autres showrunners de l'époque, il a empouvoiré ses auteurs et aussi ses acteurs, même si effectivement certains se sentent lésés, mais même dans son regard et dans l'observation qu'il a eu d'eux et la façon dont il a fait évoluer ses personnages, il s'est inspiré de ses auteurs et de leur regard sur le monde qui était différent du sien, et de ses acteurs, et que du coup, non seulement Buffy est une œuvre collective, mais pourtant c'est aussi l'intérêt qu'il avait pour la collectivité de l'œuvre qui en fait une œuvre collective. Donc c'est, du coup, c'est à double tranchant, quoi qu'il arrive.
Il était quand même contre, enfin il n'était pas ravi de l'évolution de Spike par rapport aux fans.
Alors déjà, je trouve que ça aussi, je trouve que ça a été vachement colporté, le truc de James Masters. Quand t'écoutes l'interview, il y a quand même 2 secondes avant, James Masters explique « he's the sweetest guy ». Il raconte cette expérience qu'à un moment, ça le rendait fou, la façon dont Spike avait évolué, pour des raisons très intéressantes et très féministes d'ailleurs. En gros, on l'avait, selon James Masters, pardon, on l'avait forcé à faire de Angel un love interest, et donc à rendre sexy un vampire. Alors que lui, pour lui, les vampires, c'était censé être le mal, et donc c'était pas censé être sexy, parce que c'était pas la violence, c'était pas censé être sexy, c'était pas censé être cool. Sauf qu'on l'a, plus ou moins, on l'avait forcé, la chaîne l'avait forcé à faire ça, et il voyait que c'était en train de se reproduire avec un deuxième vampire, et il voulait pas rentrer dans ce truc-là, et que du coup, l'altercation que décrit James Masters, c'est Joss Whedon qui le fout contre le mur et qui lui dit « Je m'en fous que tu sois cool et charmant, si tu me fais chier, je tue ton personnage. » Arrête de faire d'être cute, c'est, je vais tuer ton personnage. Et ce que James Masters dit à Michael Rosenbaum, qui fait « Ah, mais il t'en voulait d'être populaire », il dit « Mais non, à sa place, moi, j'aurais assassiné le personnage. » Et dit « Mais lui, il est plus intelligent que moi et il a réussi à en faire quelque chose. » De réduire ça à « Il a été... » Effectivement, sanguin, c'est le bon mot, je suis d'accord avec toi. Mais le fait que, tu vois, il a eu un acte violent contre James Masters, c'est pas exactement ça, comme ça que James Masters le raconte. Bah,
c'est comme quand Charisma Carpenter raconte en 2009 sa discussion avec Joss Whedon. Elle dit, elle lui demande, mais est-ce que tu veux encore travailler avec moi ? Et c'est lui qui a dit, mais finalement, est-ce que toi, tu veux encore travailler avec moi ? Et ils ont tous les deux dit oui. Donc finalement, leur relation était quand même, enfin, c'était réglé entre guillemets, quoi. Tu vois, c'était.
Non, mais après, ça
il y avait
pas
un souci,
que...
mais c'était réglé entre guillemets. C'est-à-dire que c'est oui, c'est bon, on continuera à bosser ensemble, il n'y a pas d'autres soucis. Alors, est-ce que c'est. Simplement des je ne vais pas dire des cas isolés, mais finalement des mini-cas qui font, mis bout à bout, font un gros cas qui finalement peut-être est arrivé en même temps. Peut-être que la tromperie est arrivée en même temps que l'affaire avec Charisma et que finalement, tout se passe dans Buffy, mais que dans toutes les autres séries, il n'y a eu aucun problème.
Bah, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, j'ai toujours vu Buffy comme un cas d'école. Et si ces mini-cas nous permettent de nous poser des questions et oui. Sur notre rapport à des objets dont on est fan et sur la façon, effectivement, dont on fait le culte de la personnalité autour de certains showrunners, mais aussi les façons dont on digère la presse et les médias et les clickbait, je pense que pourquoi pas. Enfin, et cette discussion, elle est saine. Et je pense que il y a aussi un truc plus large à dire que, enfin moi, j'ai qu'à un moment j'ai commencé à noter parce que du coup ça fait 3 semaines que j'en parle de ça, je n'arrête pas. Et j'ai commencé à noter les 12 ou 13 sujets qui étaient à l'intérieur de sujets. Et un des sujets, par exemple, c'est la calcification, enfin la cristallisation autour d'un événement traumatique. En gros, Charisma Carpenter, ça fait 18 ans que chaque fois qu'elle donne une interview, on lui rappelle qu'elle a été virée d'Angel. Je pense que non seulement c'était traumatique à l'époque, mais je pense que c'est aussi incroyablement traumatique du fait même que ça c'est devenu la première, pour elle, c'est devenu la headline de sa carrière quand même.
Oui.
Donc, le moment où tout d'un coup, Ray Fisher, je trouve ça hyper chelou, tout son truc est ultra bizarre. Donc, je trouve que c'est très, très, très... Tout le truc avec Justice League, j'ai l'impression que c'est encore plus nébuleux, c'est un peu notre problème. Mais Ray Fisher fait son truc, il y a une investigation, ils appellent des gens. Tout d'un coup, on l'appelle, ça réavive son truc. Et ben, elle balance son truc parce qu'elle a besoin de lâcher le morceau, parce que ça la hante depuis 18 ans. Est-ce que, moi, ce qui me dérange dans le statement de Charisma Carpenter, c'est que je l'ai lu et je me suis dit, ah, je m'en doutais qu'elle l'avait mal vécu, fuck. Ça me rend triste. Je trouve qu'en plus, Cordelia, c'est mon personnage préféré après Spike. je trouve qu'elle est en réalité excellente dans les deux séries. Et j'ai toujours pensé, je crois que je l'ai dit dans des vidéos, dans des podcasts sur Angel, ça fait des années que je le dis, le péché originel du Buffyverse, c'est la fin de Cordelia. Pas la fin, mais la saison 4 de Angel. C'est le péché originel de la série, c'est là où c'est le truc pourri qu'ils ont fait, c'est comment ils ont traité son personnage.
On va remonter en 2002, donc où en est Buffy en 2002, la série et au personnage de Cordelia?
C'est la vraie question, c'est que parce que moi j'ai fait mon mémoire d'histoire contemporaine, j'ai fait un mémoire de 200 pages sur la saison 7 et les guerres de George W. Bush. Donc première chose, on est dans l'Amérique hyper traumatisée un an après le 11 septembre. Ce qui veut dire que littéralement, si tu regardes toutes les séries de cette époque, tout le monde va mal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la dernière saison de Buffy et Joss qui s'était un peu éloigné pendant la saison 6. Et il a donné son soutien à Martin Oxon, mais Martin Oxon a quand même introduit des trucs qui étaient un peu pas complètement dans le ton de Buffy, même si je trouve que c'est génial que ça existe dedans, mais plus en termes d'exécution, des fois, c'est y a un peu des fausses notes. Donc, il veut revenir à fond sur cette série. C'est au même moment qu'il lance Firefly, qui va exploser en vol. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le truc avec Charisma Carpenter. En parallèle, il me semble que c'est aussi l'année où sa femme vient d'avoir leur premier enfant. Or, l'intégralité de la fiction de Joss Whedon diabolise la figure du père jusque-là. Donc je pense que de devenir père, c'est un événement extrêmement traumatique dans sa vie. Donc de toute façon, pour moi, ce moment-là, 2002, c'est le pire moment de la vie de Joss Whedon. Genre vraiment, je pense que c'est le moment où tu vois, t'avais pas envie de t'approcher de lui, quoi. Je crois fondamentalement, ah, c'est pas une excuse, hein. Il avait des pouvoirs, il aurait dû le savoir, bien entendu. Après, il y a une différence entre le fait de considérer que quelqu'un n'est pas responsable et l'idée de déshumaniser complètement son expérience. Et le problème du statement de Cordelia, comme je disais, enfin de Charisma Carpenter, j'arrête pas de les appeler par leur nom. Le problème du statement de Charisma Carpenter, c'est que c'est un statement qui est désincarné, y compris en termes de son émotion. Il y a quelque chose de déshumanisé et je comprends pourquoi elle le fait parce qu'elle essaye d'être dans le contrôle de ce qu'elle raconte. Mais le problème, c'est que du coup, on dirait que ça s'adresse à une cour de justice. La réalité, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, moi, je trouve ça hyper toxique de communiquer comme ça. Après, je dis pas qu'elle avait le choix, elle avait besoin de le dire, elle le dit comme elle le veut, c'est son expérience et sa vie. Mais je pense que du coup, ça a un effet sur nous de déshumanisation. Et elle, tout d'un coup, elle est désincarnée et elle devient juste une victime. Et Joss devient un monstre dans sa description, sans être une personne non plus. Et en fait, du coup, ça crée une confusion folle pour nous tous parce que tout d'un coup, on a l'impression que quelqu'un qu'on associe à quelque chose de positif est un monstre. Alors qu'en fait, la vérité est entre les deux, quoi.
C'est vrai. Et le départ de Cordelia vers Angel, est-ce que c'était un dick move pour être tranquille ou pas du tout?
Je pense pas parce qu'à l'époque, il était sur les deux séries autant. Je pense que en réalité, pour le coup, il a libéré. Pour moi, le départ de Cordelia vers Angel, c'était lui donner beaucoup plus de place. En réalité, elle a une place nettement plus importante dans Angel qu'elle n'avait dans Buffy. Et du coup, après, tu sais, entre ce que la chaîne a décidé, ce que Greenwald a pensé, Charisma Carpenter a toujours dit que la personne qui avait vraiment habité Cordelia, c'était David Greenwald. Donc, vu que le co-créateur, c'était Greenwald, c'était peut-être une décision de lui de prendre Cordelia avec Angel à Los Angeles. En tout cas, moi, je m'en félicite. J'adore Cordelia dans Angel. Je trouve ça... J'ai toujours adoré Cordelia, mais dans Angel, je la trouve merveilleuse et je suis complètement fan de leur dynamique.
Je pense que c'est unanime, ça. Genre, oui, tout le monde adore clairement. Cordelia dans Angel, oui.
Clairement. Ouais.
pas à l'époque, hein. À l'époque, c'était dur.
Et la fin de son personnage, du coup?
Alors, la fin de son personnage dans la saison 5 est sauvée. Parce que dans la saison 5, ils ont fait un épisode spécial et franchement, c'est un bon épisode. Ce qui s'est passé dans la saison 4, c'est juste n'importe quoi, quoi. La saison 4, c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas su gérer le truc et ils ont écrit de la merde. T'es pas d'accord?
Mais sur la saison 4, sur la saison 4, je suis totalement d'accord. Sa fin est bâclée et on se souviendra toujours de cet arc entre Connor et Cordelia qui est juste traumatique.
Mais franchement, c'est pas le pire, hein. C'est traumatique, mais c'est pas le pire. Ce qui est pire, c'est comment la suite... où tout d'un coup, elle joue mal, je pense, juste parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle était censée jouer, parce que c'était écrit avec les pieds.
Ah oui, oui, non, mais vraiment. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est à quel point ils se sont rattrapés en saison 5, parce que son adieu, je l'ai trouvé justement très, très bricolé, en fait. Comme un... peut-être un cadeau pour les fans, ou voilà, on savait qu'on était sur la fin, et c'est très bien, mais je l'ai trouvé vraiment bricolé par rapport à son importance dans la série, parce que vraiment, dans les trois premières saisons, mais pour moi, c'est elle le show, c'est pas Angel.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, je dis juste qu'ils l'ont sauvé, parce que vu comment, enfin, pour regarder comme vous un paquet de séries depuis, je sais pas, 30 ans, vu le nombre de personnages qui disparaissent, où il se passe rien, là je suis heureuse qu'on ait quand même eu l'épisode 100 d'Angel. Mais et je vais vous dire, ça c'est le truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Il y a deux trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille sur le fait que Joss Whedon avait merdé avec Charisma Carpenter et était dans le déni total, dans le sens, pas dans le déni total comme le sont généralement les mecs comme ça, c'est-à-dire en disant « Oh, on s'entend trop bien, c'est trop la fête !» Mais plus, là il y a un truc auquel je veux pas toucher, je veux pas y penser parce que je sens qu'il y a un truc pas clair. C'est deux anecdotes. Bon, la première déjà, c'est que à l'époque, pour l'épisode 100, c'était censé être Buffy qui venait, et Sarah Michelle Gellar n'était pas disponible, donc ils ont décidé finalement de mettre Charisma Carpenter dans l'épisode. Et quand j'y pense, je me dis, mais comment ils ont pu imaginer ne pas donner d'épisode à Charisma Carpenter, quoi. Et du coup, ça, je me suis dit, ok, donc il est complètement dans le déni du fait qu'il a fait de la merde dans la saison 4. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'espère que c'est pas trop grossier pour vous. Et la deuxième chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un des auteurs de Angel After the Fall, donc les comics qui étaient juste après la saison 5 d'Angel, avant qu'il revienne chez Dark Horse, où il y a un des auteurs qui fait venir Cordelia dans une vision, plus ou moins une vision, et il explique dans l'édito ou dans l'intro du comics qu'il adore Cordelia et qu'il voulait absolument l'impliquer, et qu'il a demandé la permission à Joss, et Joss lui a dit « Non, mais son histoire est terminée. »
Wow, là, c'était une référence trop obscure pour moi, personnellement, mais
non,
d'accord.
Non, mais ça veut dire qu'il y a un mec qui est fan de Angel, qui écrit sur la suite d'Angel dans les comics, et quand il veut insérer Cordelia, Joss Whedon fait « Ah non, mais elle, son histoire, elle est terminée. »
Ouais.
Et là, tu fais « tu as un problème !» Et donc, pour moi, le fait même qu'il ait un problème me montre qu'il, consciemment ou inconsciemment, il se sent coupable, et il devrait, et que du coup, c'est comme ça que je me suis dit ça, c'est pas bien terminé. Ça, c'est pas bien terminé et il sait qu'il a... Après, moi, je trouve le plus... Dans toutes ces histoires, la chose que je trouve la plus encourageante, c'est que c'est que si tu lis l'article, notamment de Variety, qui est un des articles...
Oui.
Qui dit des conneries aussi, mais qui est un des articles les plus justes... Bah, ils disent des conneries parce qu'ils font genre Frater Days, c'est une invention de Buffy, alors que l'intégralité de toutes les séries de 22 épisodes qui étaient un peu ambitieuses terminait le samedi matin aux aurores. The West Wing, c'était toutes les semaines... C'était la norme, ça a toujours été la norme. C'est une expression qui date des années 70. Faire semblant que c'est Buffy qui faisait des heures de tournage insupportables, c'est vraiment du foutage de gueule. Bon, à part ça, il y a beaucoup de choses qui sont quand même... c'est du meilleur journalisme que le reste. Et un des trucs qu'ils disent dedans, c'est à quel point, pour le coup, pour les chaînes, il était bien vu. Il n'avait pas du tout mauvaise réputation. Ce qui veut dire qu'en fait... Comme on s'en doutait à l'époque, il aurait pu faire une autre série et plus de films derrière. Je trouve ça intéressant qu'il ne l'ait pas fait tout de suite et que quand il l'ait fait avec Dollhouse, la première décision qu'il a prise, c'était de mettre deux nanas comme showrunner plutôt que lui. Moi, je pense que ça nous dit quelque chose sur comment il regarde son expérience de boss. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'en réalité,
ou alors c'était pour trouver juste une justification pour faire des conneries derrière et pour avoir une belle image devant, quoi.
Oui, mais je pense que... Mais c'est pas comme ça que les prédateurs fonctionnent. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais en réalité, les prédateurs fonctionnent pas comme ça. Même les prédateurs les plus calculateurs ne fonctionnent pas comme ça. C'est instinctif. Ils créent des systèmes. Le truc des showrunners, c'est que il s'est dit, je vais faire une série Dollhouse, je vais faire une série qui parle d'exploitation du corps des femmes. J'ai envie que ce soit des femmes qui soient impliquées parce que justement, je suis un mec. On parle de tous les gens qui trouvent ça scandaleux, ce qu'a fait Joss Whedon. Enfin, une fois plus, leur expérience, je les crois, mais complètement. J'ai assez, en plus, ma mère était comédienne toute mon enfance, donc j'ai grandi sur les plateaux et dans les théâtres, et je vois exactement les expériences dont elle parle. mais malgré tout, il y a quand même l'idée qu'il y a aussi tous les autres acteurs et actrices qui n'ont pas parlé et qui, pour le coup, ont retravaillé de multiples fois avec lui, y compris sur des projets qui étaient des petits projets.
Après, quasiment tout le monde de Buffy quasiment a parlé quand même. Après, pardon, de Buffy Angel.
Oui, mais
voir
ce que t'appelles parler. Quand James Masters dit « Oui, le plateau était difficile, mais je soutiens de toute façon les gens qui parlent », il y a aussi l'idée qu'ils ont quelqu'un comme Charisma Carpenter qui parle et ils n'ont pas envie d'être contre elle. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est surtout ça, c'est pas être contre Joss, c'est soutenir ceux qui ont mal vécu. C'est...
Ouais.
C'est pas très clair. La plupart des propos sont hyper, hyper ambigus, quoi.
Oui, comme Amy Acker aussi, pareil. Oui.
Amber Benson, c'était un toxic environment and it starts at the top. Excuse-moi, ça ne veut plus du tout dire la même chose que ce que les autres racontent, tu vois. Les autres racontent que c'est lui qui était toxique. Tout d'un coup, on dit non, c'était l'environnement qui était toxique. Enfin, c'est... après, une fois de plus, les deux peuvent être vrais. Je dis juste que c'est... Après, je me suis fait la même réflexion en termes de cinéma. Il a fait le film Serenity, mais après, c'est quoi les films qu'il a fait? Il a fait des films où les stars étaient plus grosses
que lui. Ces gens, quoi.
Non, mais
genre...
Avengers, il a accepté de faire Avengers où tout d'un coup, les gens avaient plus de pouvoir que lui. Tu vois, les acteurs avaient plus de pouvoir que lui. Et ensuite, il a fait Much the Bad Nothing dans sa maison avec des gens qu'il connaissait déjà. Je pense que ce mec a peut-être un problème avec l'autorité, il le sait.
Stéphane.
Non, si je me souviens bien, il a quand même écrit Alien 4. C'est la même chose, quoi. Enfin, il a laissé... C'était un film de commande. Pourquoi, Laura de, comment elle s'appelle, j'oublie, Sigourney Weaver faisait qu'il avait rien à dire, il a juste écrit le scénario, il s'est barré.
Non, je pense que c'était avant. Enfin,
non, c'est pas
avant.
Ça qui s'est passé avec Alien 4. Ce qui s'est passé avec Alien 4, c'est que on lui a proposé de tenter d'écrire un 4, en gros pour convaincre Sigourney Weaver. Parce que Sigourney Weaver, sinon, n'était pas intéressé. Il a écrit le 4. Sigourney Weaver a adoré le scénar. Elle a signé dessus. Je vais dire Nathalie Portman, mais non. Winona Ryder a adoré le scénar. Elle a signé pour. Ils se sont mis à la recherche d'un réalisateur. Ils ont embauché un Français qui s'appelle Jean-Pierre Jeunet, qui ne parle pas très bien anglais et qui n'a pas compris le scénario et surtout pas les blagues du scénario, vu comment c'est filmé. Moi, j'adore Alien 4 parce que c'est un truc hybride, mais en réalité, si tu regardes Alien 4, tu réalises que toutes les blagues de Whedon tombent à plat. Mais Jeunet, il a vu le scénario, il a dit « c'est de la merde, ça veut rien dire, faut tout changer ». On lui a dit « ah non, on touche pas au texte ». Il a fait « ok, whatever ». Mais il a compris aucune blague, quoi. Et du coup, Joss Whedon, il a vécu ça comme un truc hyper traumatique. Après, pour ceux qui ont vu « Cabin in the Woods », « La cabine dans les bois », produit par Joss Whedon, co-écrit par Joss Whedon, réalisé par Drew Goddard, c'est qui, à la fin, qui vient faire un caméo de ouf? C'est Sigourney Weaver. Donc je pense que Sigourney Weaver... elle a un bon souvenir du scénario d'Alien 4.
Et aucune déclaration encore de Buzz l'éclair et de Woody, vu qu'il a écrit Toy Story. A priori, le tournage s'est bien passé sur Toy Story.
C'est pas seulement qu'il a écrit Toy Story, c'est que selon les mecs de Pixar, il est venu, il a passé 6 semaines à Pixar et il leur a appris à raconter des histoires. C'est ce qu'ils disent, la base du storytelling.
Mais voilà, mais ça fait partie encore de la glorification, tu vois. Voilà, c'est tout.
Non, c'est pas de la glorification. Le truc, c'est que ce mec, bon, pour moi, ce mec est un surdoué. Déjà, je pense qu'aucun surdoué ne devrait être manager. Ça, c'est la première.
Ça, c'est vrai.
Les surdoués, c'est des autistes. On ne voit pas qu'on soit manager, c'est mauvais. Je dis on parce que moi aussi, ça fait partie de mes stigmas. C'est pas pour rien que j'adore Joss Whedon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en fait, peut-être que la leçon, c'est que Joss Whedon, c'est vraiment Angel.
Oula, attends.
Ou c'est vraiment Buffy dans la saison 7. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est quelqu'un d'imparfait, qui a fait de la merde, qui a fait des trucs pas bien, qui a parlé mal à des gens. Et qui, du coup, sa rédemption, c'est d'essayer de changer le monde à sa façon en racontant des histoires.
Enfin, là, juste beaucoup plus globalement, ta rédemption, c'est de t'améliorer, en fait. Et donc, si tu refais les mêmes erreurs pendant 30 ans, à un moment, il n'y a plus de rédemption qui tienne,
mais
en fait.
Mais est-ce que t'as fait les mêmes erreurs pendant 30 ans? Parce que la question, c'est ça. La question, c'est...
Mais c'est vrai
je suis pas sûr qu'il ait refait les mêmes erreurs pendant 30 ans. Je suis pas sûr qu'il les ait refait.
Ben oui,
Ray Fisher, une fois de plus, les statements de Ray Fisher sont extrêmement étranges. Ils sont vraiment étranges. Parce que le truc, c'est qu'en plus, c'est un truc un peu particulier où du fait qu'il attaque Joss Whedon pour dire que c'est pas la faute de Joss Whedon, c'est la faute des exécutifs qui l'ont laissé agir comme ça. Donc, il y a un truc hyper chelou. On sait pas ce qui s'est passé sur le plateau. Alors, parlons de l'autre truc, une fois de plus, dans la psychanalyse de Joss Whedon. Donc, quand même, Justice League, c'est quand même le projet le plus pourri de la Terre qu'il reprend, à mon sens, parce qu'il y a un mec qui l'appelle et qui dit « Ma fille s'est suicidée, je peux pas faire ce film, finis-le pour moi ». Je veux dire, c'est Justice League, c'était maintenant ils ont réécrit l'histoire, mais c'était
une patate chaude.
Non, mais c'était un Titanic en puissance, quoi. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Moi, je vois vraiment le moment, et puis surtout, c'est comme ça que les Américains fonctionnent, en fait, beaucoup plus qu'on ne le croit, dans ces communautés-là, en tout cas. Moi, je vois Snyder qui l'appelle. Qui dit.
Pourtant, ils n'ont pas du tout le même univers, ils n'ont pas la même patte, ils n'ont rien. Pour le coup, c'est les deux mecs les plus antagonistes. C'est pour ça que le film il ressemble à tout et n'importe quoi. Tu vois du Whedon et tu vois du Snyder qui se superposent et tu sais que ça ne marche pas. C'est ça qui est dingue.
Déjà, il n'en a pouvait plus des exécutives avec Marvel, et Marvel, ils sont plus cool que DC.
Et ben c'est ça le truc. C'est parce que
les... un câble, quoi.
Mais les gens d'ici se sont dit, bah, tiens, il a fait Marvel, il a fait Avengers, on va le récupérer, ça va faire plaisir à tout le monde et on va se faire mousser parce que comme ça, les gens viendront voir le film.
Alors que je pense pas du tout que c'est par rapport au public parce que les Américains pensent pas comme ça. Enfin, en tout cas, ils sont encore surtout pas chez DC. Non, je pense qu'ils se sont dit, il a réussi à wrangle, comme on dit, à faire travailler ensemble 6 superstars sur un plateau et ça a fait un film qui tient la route.
Stéphane, on le sent dans son petit soupir.
Oui.
T'aimes pas Avengers?
Ah non, mais bon, oui.
Ah, d'accord. Okay. Moi, j'adore Avengers. Mais surtout, le premier Avengers, que tu l'aimes ou pas, c'est un succès sur tous les tableaux pour tout le monde.
Oui, donc, mais ça, je peux pas le nier, malheureusement.
Et surtout, c'est un. Il faut qu'on en parle un jour. Et surtout, mais par contre, c'est un échec programmé depuis 2 ans. Le moment où Whedon chope le projet, tout le monde dit, ça va être une catastrophe. Ce film va être une catastrophe. Ça a été un tel succès, les gens ont oublié. Mais juste avant sa sortie, tout le monde pensait que ça allait être n'importe quoi. 6 super-héros, mais ça va avoir aucun sens, ça va partir dans tous les sens, blablabla. Moi, je me préparais à la catastrophe. Je me dis, ça y est, Joss Whedon fait enfin un truc high profile, il va s'en prendre plein la gueule. Le truc, c'est que ça m'amène à un de mes points principaux. Ce qu'on peut appeler le reckoning en anglais, donc la prise de conscience générale qu'on a sur des abus, notamment des abus de pouvoir vis-à-vis des minorités. Donc les minorités, c'est toutes les personnes qui ne sont pas des hommes cis blancs hétérosexuels.
En gros. Plus de 50 ans.
Plus de 50 ans, mais malgré tout, même quand ils sont plus jeunes, il y a une espèce de, oui, de culture vrai. Quand même de l'entitlement, donc du chose qu'on leur, on socialise ces hommes. C'est pas que ces hommes-là ont des faiblesses que d'autres n'ont pas, c'est juste qu'on les socialise pour qu'ils pensent que leur de telle façon qu'ils ont l'impression que leur parole porte plus que les autres, et puis ils ont le sens de la légitimité, ce que les autres n'ont pas. Après, ils n'en ont pas tout à fait conscience. Il y en a peu qui en ont conscience, et je peux très bien le comprendre, parce qu'on a tous, prendre conscience de son privilège, c'est dur quand même. Donc voilà, toujours est-il que cette espèce de prise de conscience généralisée est très saine et nécessaire, et c'est quelque chose, moi, qui est important pour moi depuis que je suis toute petite. Et c'est des choses auxquelles j'ai beaucoup réfléchi, notamment à travers les œuvres multiples et variées de Joss Whedon. Cependant, c'est quelque chose d'extrêmement inconfortable, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est quelque chose où on entre dans l'incertitude. Tout d'un coup, ce qu'on pensait être bien et mal change. Tout d'un coup, il y a des nouvelles définitions. Tout d'un coup, il y a des nouvelles perceptions, des nouvelles questions qu'on ne se posait pas. Donc, c'est extrêmement inconfortable, cette incertitude. Mais surtout, la réalité, c'est que l'oppression systémique, que ce soit raciale ou que ce soit misogyne ou que ce soit homophobe ou plein d'autres, parce que malheureusement il y en a d'autres, en fait c'est quelque chose auquel on participe tous, quelle que soit notre identité. C'est-à-dire que si on parle de la question de la misogynie, ce qui d'ailleurs l'article de Variety nous donne l'impression que finalement c'est pas vraiment de la misogynie ce qu'on a reproché à Joss, c'est plus qu'il était infect avec plein de gens en fait. Pas spécialement que les femmes. L'idée que Kyle Cole considère que parce que son mari l'a trompé, il n'était pas féministe, je ne suis pas du tout d'accord.
Oui, non, ce n'est pas que ça qu'elle dit seulement. Elle dit aussi qu'il a profité justement de sa position avec des jeunes femmes.
Je trouve que ça aussi, c'est un procès d'intention et ça ne ressemble pas même aux extraits de lettres qu'elle met de Joss pour prouver ce qu'elle veut dire. Moi, j'entends une femme en souffrance et c'est terrible qu'elle soit en souffrance, mais je pense que les raccourcis qu'elle prend et les jugements de valeur sont hyper problématiques et je suis pas d'accord avec eux. Ayant moi-même été trompée par des hommes, ayant trompé moi-même, ayant été la maîtresse, je trouve que ce qu'elle dit, ce sont un peu des conclusions hâtives.
Oui, enfin, les lettres, il y a aussi des bouts qui disent un peu, en gros, ah, mais c'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Et en gros, c'est ah, mais c'est
mais
pas
non,
toi,
mais
c'est moi.
C'est exactement
en fait.
Ça que je veux dire. Oui, mais ce qui excuse-moi, mais pour moi, avoir eu un des hommes qui m'ont trompée, j'attends encore qu'ils me disent ça. Hein. Moi, rien que ce boulot de la lettre, je suis là, oh putain, il est cool, Joss.
Mais non, mais là, il y a elle, mais on revoit les exigences.
Il s'est mal comporté dans son travail, il a clairement, selon moi, fait le plus possible pour justement éradiquer la maladie dont il souffre lui-même. Bon, ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais le truc plus large que je voulais dire, non, parce qu'à l'époque, en 2017, il est inutile de dire que j'ai écrit un certain nombre de posts sur Facebook. Le truc que je voulais dire, c'est que ce moment de prise de conscience, qui est douloureux pour tout le monde, qui doit être douloureux, et ce fait que cette misogynie, on l'a fait tous, qu'en réalité, la misogynie, le racisme, l'homophobie, c'est quelque chose qui est ancré dans nos structures sociales voilà, ça a peut-être changé avec les générations qui viennent, mais nous, on a quand même grandi avec des idées préconçues qui sont intrinsèquement misogynes, racistes, homophobes, classistes et compagnie. Et que, du coup, quand on parle vraiment de ces questions-là, pour de vrai, en fait, on se met nous-mêmes en danger de devoir se juger, en fait. Parce que d'un coup, on doit réaliser tous les trucs qu'on a dit, tous les trucs qu'on a fait, tous les trucs qu'on a pensé, tous les trucs qu'on pense. Et donc, du coup, quelque chose de très naturel dans un moment de prise de conscience comme ça, qui est douloureux, c'est de shame and blame. Donc, tu cherches des boucs émissaires qui sont peut-être coupables, mais tu cristallises la culpabilité sur eux pour ne pas avoir à poser une question sur le sens, sur le groupe général. En gros, c'est plus facile, et c'est le cas depuis le début de MeToo, c'est plus facile de se concentrer sur les quelques démons qu'on peut nommer plutôt que de poser des questions sur toutes les pratiques problématiques de l'industrie et de la société. C'est une façon aussi de se rassurer, de dire « Regarde, c'est lui le méchant ».
Mais t'es sûr que Whedon avait perdu de son pouvoir, de son aura ?
Ah bah pour moi, c'est pas qu'il a perdu de son pouvoir et de son aura, c'est qu'en gros, moi pour moi, ça fait des années, en fait, Avengers 2,
C'est lui qui l'a écrit ?
C'est lui qui l'a réalisé, mais après Avengers 2, qui est en plus, en fait c'est un film sur le divorce, et d'ailleurs c'est le moment où il était en train de divorcer, donc il y a son divorce, Avengers 2, qui se passe pas comme il voulait parce que au moment du tournage, tout d'un coup, les schedules de tous les acteurs commencent à changer. Du coup, il doit réécrire la moitié du film pendant le film et ça le rend fou. Ensuite, il lui force à virer 20 minutes qui, à mon avis, pour lui donnait du sens à l'histoire et du coup, ça le rend fou aussi. Et pendant la tour promo, il le dit lui-même, il est complètement exsangue, il n'en peut plus. À mon avis, à ce moment-là, il dit, mais en fait, je veux pas bosser à Hollywood. Et déjà, moi, quand je l'ai rencontré, c'était un an plus tôt. Et déjà, un an plus tôt, il avait commencé à vivre en Angleterre et il avait dit, le moment où je suis arrivée en Angleterre, je me suis dit, ah, ça y est, je me souviens pourquoi j'aimais cet endroit. En gros, il aime pas Hollywood, il démissionne d'Hollywood, il se barre d'Hollywood. Il est revenu sur les réseaux sociaux en 2016 parce qu'il voulait contribuer à aider des gens pour leur campagne électorale. Mais le show business, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait depuis quelques années? Bon, il a écrit des projets, mais on sait pas. Alors, effectivement, il y a The Never sur HBO, mais je pense qu'il s'est dit, c'est HBO, je le fais en Angleterre, c'est bon, je vais pouvoir faire mon truc. Moi, je me suis dit, à mon avis, avec HBO, ça va pas du tout passer. Et bingo, il est parti. Alors, peut-être qu'ils l'ont viré, peut-être que j'en sais rien, mais en tout cas.
Oui, mais ça, c'est la conséquence du Ray Fisher gate.
Non, ça, c'est Ray Fisher qui dit ça. C'est pas parce que Ray Fisher poste un truc sur Instagram en disant, je sais que c'est ça, que c'est vrai.
Je trouve que tu veux aussi un peu beaucoup de biais de confirmation en mode comme dans sa vie il se passe ça, alors ça signifie peut-être ça dans ses œuvres. Tu trouves pas?
Bah, c'est pas comme ça que tu étudies toutes les œuvres de tous les gens? Non, mais moi, c'est mon approche. Après, effectivement, ce sont des hypothèses. Hein.
Revenons sur les séries si vous le voulez bien. Oui, j'ai encore trois questions et après on pourra.
J'arrêterai de parler.
Non, mais avec tout ça, est-ce que finalement Buffy, quel sera ou quel est l'impact sur la série Buffy? Est-ce qu'on peut l'analyser différemment? Est-ce que certaines personnes vont ne pas vouloir la regarder? Est-ce que ça peut changer la vision qu'on aura sur la série, comme on a eu par exemple sur... c'est encore différent, mais revoir Friends en disant oui, ça c'est problématique, ça c'est problématique. Est-ce que Buffy... subira des ravages par rapport à ça ou pas du tout?
Dans les idées préconçues, dans la narrative autour de la série, potentiellement. Après, j'ai l'impression que Buffy, même quand c'était adulé, j'ai toujours l'impression que c'est un peu incompris, qu'on passe toujours un peu à côté du sujet, tu vois. Buffy, c'est pas du tout un truc sur le girl power. Pour moi, comme je l'ai dit, mon truc, c'est un truc sur l'éthique du pouvoir. C'est pas ça qui est féministe dans Buffy. Ce qui est féministe dans Buffy, c'est la remise en question des fonctions narratives genrées. C'est que tout d'un coup, tous les personnages féminins ont des fonctions qui généralement sont des fonctions de masculines et vice versa. C'est parce que c'est sur la libération de Buffy elle-même des carcans dans lesquels elle est au début de la série. Enfin, le féminisme, il est pas là où on l'a vu. Donc, oui, la narrative va changer. Après, moi, pour Friends, c'est un peu pareil. Je suis sur le point de faire une vidéo, justement, sur ma chaîne YouTube en anglais sur pourquoi Friends est génial. Et, moi, c'est cette lecture de Friends, enfin, je dirais pas qu'elle a pas de sens parce que je vois d'où elle vient et en même temps je trouve que c'est, enfin pareil, c'est la calcification d'une narration, c'est-à-dire que c'est réduire quelque chose à une lecture qui passe à côté de l'essentiel aussi de la série. C'est qu'on peut discuter de ces questions-là sans éradiquer tout le sens de l'œuvre. Et voilà, après, moi, Buffy, il se trouve que j'ai recommencé à regarder Buffy. Moi, je travaille avec une scénariste d'une trentaine d'années autrichienne qui n'a jamais vu Buffy de sa vie, enfin qui n'avait jamais vu Buffy de sa vie, et parce qu'on travaille ensemble, je dis que c'était important qu'elle regarde, et donc elle a commencé à regarder Buffy 2 semaines avant que le truc éclate, et du coup ça faisait 2 semaines qu'on regardait la première saison et qu'on en parlait pendant de longues heures, et que j'avais son expérience à chaud de réalisatrice et de scénariste et de jeune femme de 30 ans qui disait mais comment j'ai fait pour survivre à mon adolescence sans Buffy, mais c'est incroyable. Dès le premier épisode, elle était là, mais c'est l'énergie que ça me donne. Enfin voilà. Du coup, on était dans une nouvelle redécouverte de la série complètement passionnée et passionnelle, surtout de la saison 1, qui est pas la saison la plus reconnue. Et j'avais notamment beaucoup de réflexions sur le fait que, contrairement à beaucoup d'autres séries, le corps de Buffy n'est pas sexualisé par la caméra. Ce qui est très très rare pour les séries de l'époque, notamment par rapport à Charmed ou à plein d'autres séries. Et je me posais plein de questions justement sur le fait qu'il n'y ait pas vraiment de male gaze dans la saison 1 de Buffy, juste au moment où le truc a explosé. Donc en réalité, je pense que pour tous les amateurs et pour les gens qui sont curieux, il n'y a aucune raison d'oublier Buffy. Vraiment aucune. Au contraire, ça fait des années que j'essaye d'écrire un truc sur pourquoi il faut vous mettre à Buffy aujourd'hui, 20 ans plus tard. J'avais commencé à écrire pour les 20 ans et je pense que c'est peut-être le moment de l'écrire maintenant cet article. Oui, ça va changer dans les idées préconçues. Il y a toujours eu des idées préconçues sur Buffy. La blague de Buffy, c'est que ça a toujours été, ça a toujours été incompris ou mal compris ou mal présenté. Donc, ce n'est qu'une des étapes de cette incompréhension-là. Et ça fait réfléchir les gens, tant mieux.
Mais on va aussi surtout de plus en plus lier la série à son créateur. C'est-à-dire qu'on va parler de la série. Ah oui, mais tu sais ce qui s'est passé avec son créateur.
Oui, sauf qu'en réalité, bon déjà ça, bah oui, mais malheureusement, c'est ce qui va se passer. Mais c'est ce qui se passe un peu. C'est l'histoire du cinéma aussi. Hein, les narratives comme ça qui sont... Après, la première fois que j'ai lu un article sur « Ah mais en fait, Buffy, c'est pas vraiment féministe », c'était en 2005, quoi. C'est même pas ça, c'est, je pense, j'en parlais récemment dans le premier podcast que j'ai jamais fait sur mon site, s'appelle Whedon et les féministes. Et il date de 2015.
Que j'ai écouté hier, en plus.
Et bah, tu vois, t'as vu comme c'était incroyablement approprié par rapport à l'actualité. Et genre, je passe mon temps à dire, ouais, les trucs sur les réseaux sociaux, les raccourcis à 2 balles. Et dedans, je parle du fait que dans la saison 4, Buffy, elle était vachement maigre et les féministes ont commencé à dire, cette série n'est plus féministe parce que Buffy est maigre.
Donc, oh là là.
Si ça invite des gens à parler de comment se bien se traiter au travail, si ça invite les gens à se poser des questions sur la misogynie internalisée et la façon dont on opprime les femmes en n'ayant pas conscience de l'impact de nos mots. Si on se pose des vraies questions sur la représentation des femmes, sur la place des femmes au travail, mais tant mieux ces conversations. Mais le problème, c'est ça, c'est est-ce que la conversation, c'est juste « Ah non, mais en fait, Joss Whedon, c'est pas un vrai féministe ?» Ou est-ce que la conversation, c'est comment on traite les femmes au travail et est-ce qu'on a vraiment changé et est-ce qu'on doit encore plus changé, et est-ce qu'effectivement, la hiérarchie pyramidale d'avoir un showrunner au-dessus qui décide de tout, est-ce que c'est quelque chose de sain? Et la vraie réponse a été donnée par Joss Whedon lui-même dans la fin de Buffy pour dire non, ce n'est pas une bonne idée parce que ça se termine très mal. Si vous voulez la libération, il faut empouvoirer tout le monde plutôt que d'avoir un patron au top.
Mais moi, de tout ce que je retiens de Whedon, alors que moi Buffy et Angel, voilà, c'est pas ma tasse de thé, j'ai pas grandi avec.
C'est pour ça que t'as pas aimé Avengers, ok.
Ouais, bah, peut-être. Mais j'ai pas tout vu, j'ai pas tout apprécié, et par contre, la seule chose que je retiendrai et que je retenais déjà à l'époque, à ce moment donné-là, c'est, alors sûrement déjà une déformation professionnelle à l'époque, hein, mais c'était le nom des scénaristes et c'est la façon dont après les Janice Benson, Martin Oxon, j'ai suivi leurs aventures à l'extérieur sur les autres séries, mais parce que je grâce à Whedon, ces scénaristes-là étaient mis en avant et voilà, et c'est la seule chose dont je retiendrai de sa part à lui, c'est qu'il a permis quand même à faire éclore des scénaristes et à les mettre en avant ailleurs. Enfin bon, après, c'est elles-mêmes qui se sont mis en avant ailleurs, mais c'est ça que je retiendrai le plus de lui, en fait. Plus que ces œuvres-là et ces acteurs-là et ces problèmes-là, quoi.
Et il y a aussi une part énorme du fandom dans la réception de Buffy. Enfin, oui. Pour moi, en fait, la série ne s'altère pas parce que une fois que Joss Whedon l'a terminée, elle était à nous et je la détache en fait de la personne. Enfin, pour moi, c'est vraiment la communauté autour de Buffy, le fait d'en avoir parlé pendant des années et de, justement d'avoir des gens passionnés, qui fait que je pourrais pas voir Buffy autrement. Et pour c'est quelque chose qui est aussi arrivé après toute l'histoire avec J.K. Rowling.
Complètement.
Où en fait, le fandom, certes, c'est un petit peu divisé, mais il y a quand même eu ce truc de non, en fait, l'œuvre, vraiment l'œuvre qui a été faite est pour nous, et on se fiche de ce que dit cette femme-là, et la preuve, tous ses prochains projets sont assez rejetés en général. Mais l'œuvre qu'elle a faite avant ses révélations, celle qui est vraiment à nous, on va pas, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas qu'on pardonne, c'est juste qu'on le détache et on n'a pas envie que ça altère notre regard avec et notre rapport à l'œuvre. Et c'est ça, moi, que je trouve important dans Buffy aussi.
Mais complètement, je rebondis là-dessus. Je pense qu'en fait, on s'est tellement approprié l'œuvre en tant que fan, c'est que maintenant, la vie de ces œuvres existe seulement grâce aux fans. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi détaché des auteurs, autrices, etc. Je veux dire. En plus, du coup, c'est ça, en rencontrant des gens, en créant des fanfictions, ou les livres officiels, tout ce que vous voulez, bah, ça continue, c'est toujours vivant, en fait, que ce soit Buffy ou Harry Potter, évidemment. Et c'est ça, c'est la beauté un peu d'œuvres cultes.
Je suis tout à fait d'accord. Et surtout que, voilà, c'est un temps, enfin, tu vois, il y a des gens dont on est fan à une époque, et puis ils vieillissent, et... Et des fois, ils sont. Et la question, moi, ce qui me dérange surtout, c'est que je trouve que beaucoup de gens rejettent sans expliquer ce qu'ils rejettent, juste en utilisant. On met une étiquette et on arrête d'en parler, alors que ce sujet, il est encore nécessaire. Voilà. Toutes ces questions-là sont plus compliquées que ça et méritent d'être traitées autrement que sur Twitter et sur oui. les réseaux sociaux et parfois par des articles qui ne sont pas vraiment des articles parce que ces articles qui font que colporter d'autres, ce que d'autres gens ont dit sur les réseaux sociaux sans rien apporter d'éclairage. Et ça, je trouve ça hyper dérangeant. Et pour le coup, sur Buffy, c'est pareil. Enfin, on a lu un article du Time d'hier. Tout ce qui est écrit sur Buffy, c'est n'importe quoi, quoi. C'est un ramassis de raccourcis qui n'ont rien à voir avec la réalité de la série. Et c'est clairement un colportage de préjugés. Et c'est hyper dérangeant. Donc, je suis d'accord avec ce que vous dites sur le fait que les œuvres appartiennent. Et de toute façon, moi, je dis toujours, j'adore les œuvres, pas les artistes. J'aime beaucoup les artistes, je les suis, je m'intéresse à eux. Mais je ne les adore pas dans le sens religieux du terme. C'est les œuvres que j'adore. Parce que les œuvres, elles sont sacrées. Les artistes, c'est des personnes. Donc, vu que c'est des personnes, on ne peut pas les adorer, on ne peut pas les canoniser, en fait. C'est absurde de les canoniser. Mais, et du coup, pour moi, c'est très important d'adorer l'art et pas les artistes.
Donc, ça veut dire que tu arrives à séparer l'homme de l'artiste enfin,
Bah justement, je ne sépare pas l'homme de l'artiste, je sépare l'artiste de l'art.
L'artiste de l'art, ok.
C'est exact, c'est comme ça que je le vois. Et c'est une petite nuance, mais c'est vraiment différent. Je ne pense pas, contrairement à ce que certains gens ont essayé de nous faire croire sur des blogs américains en 2005, que Buffy est une série sexiste, tout ça parce que elle est trop mec dans la saison 4 ou qu'elle porte des mini-jupes ou d'autres choses qu'on a pu reprocher. Je trouve que dans tous les détails, même quand elle est complexe comme série, c'est une série qui œuvre à améliorer le rapport qu'on a dans les qualités des hommes et des femmes. Je trouve que c'est une œuvre fondamentalement saine, si complexe et parfois tordue. Donc, à partir de ce moment-là, Buffy, pour moi, est quelque chose qui mérite d'être défendu, découverte, analysée, discutée, débattue. Et pour revenir à ce que disait Stéphane sur les scénaristes, c'est pas seulement, en plus, qu'il a mis les scénaristes en avant, mais un des trucs qu'il a fait, et dont je parle souvent, et ce qui n'était pas la norme dans les années 90, c'est qu'il a poussé tous ses scénaristes à produire leurs épisodes. C'est-à-dire ouais. que quand ils écrivaient un épisode, c'est-à-dire qu'il était extrêmement impliqué dans toute la phase avant le passage au scénario, puis après, il faisait une passe, notamment ce qu'on appelle le We Don't Speak. Mais dans les détails du scénario, notamment de l'articulation, il les invitait à exprimer leur propre vision du monde. Et ça se voit du coup dans la complexité même de ce que dit la série. D'un épisode à l'autre, on a des choses différentes parfois. Et il les envoyait à suivre toute la production, de la préparation à la post-production. Et c'est pour ça qu'énormément de scénaristes de Buffy sont devenus des showrunners. C'est parce qu'ils ont eu le training sur le plateau même.
Tout à fait. Bon, bah, je crois qu'on va tendre vers une conclusion, si vous le voulez bien. Juste Stéphane, est-ce que toi, avec tout ce remue-ménage et ménage aussi sur Buffy, est-ce que ça t'a donné envie de découvrir l'œuvre ou pas du tout ?
Alors découvrir, je la connais déjà pas mal quand même, hein, j'ai quand même vu beaucoup. Par contre...
Tu l'as vu comme moi, tu l'as vu à sa diffusion, mais tu l'as pas revu.
Oui, alors non, je ne l'ai pas revu. Par contre, je me jetterai bien dessus avec tout ce qu'on sait maintenant pour essayer de voir dans les images, dans les intrigues.
C'est vrai que c'est très dur de...
S'il y a déjà des représentations de ces problèmes-là, quoi.
Bah, de se mettre une contextualisation, c'est quand même très... Enfin, ça peut être...
Mensonger. Pour moi, c'est mensonger.
Ouais,
et puis
malheureux,
désolé.
Ça peut être... Enfin, on peut voir une œuvre de mille façons suivant où.
Oui, surtout que là, en plus, je vais aller chercher spécifiquement des détails, alors que c'est pas du tout ce que la série de. Oui, mais après, s'il faut, ça va transpirer, ça va transpirer.
C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que tous les papiers qui sortent font. Enfin, à chaque fois, on essaie de donner une contextualisation qui est peut-être pas la bonne et que chacun a la sienne aussi, surtout. Quoi.
Après, il y a une vraie contextualisation en disant, OK, ça fait partie des problématiques de Joss. À quel point est-ce que c'est des thématiques qui sont traitées par la série? Parce que ça, pour le coup, tu l'as trouvé partout.
Bien sûr.
Ouais.
Le problème avec l'autorité, avec la colère, avec la violence, c'est bienvenu dans le Buffyverse. Quoi. Mais c'est ça, en fait, ma première réaction, c'était « Mais les gars, vous avez vu les séries ?» vous pensiez... Non, mais pour prendre l'exemple de The Good Place, j'ai un McCulcher et la réputation d'être un mec adorable. Mais ça sent dans ces séries.
Ah ben, clairement.
Oui.
Je veux dire, clairement, c'est pas du tout le même... Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes univers. Je veux dire, tout le principe de Whedon, c'est, Buffy, c'est de tout le monde, c'est j'ai le pouvoir de vie et de mort sur les gens, comment je fais pour rester humain, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un de torturé qui fait ça, quoi.
En ce moment, il y a Mike Usher qui est en train de se prendre des retours de bâton. Alors, je sais plus où c'est que j'ai lu un article là-dessus sur sur la façon dont il traite sur sa grossophobie supposée. Vis-à-vis de certains personnages de ces séries, et il est en train de se prendre. Ouais, alors il faudrait que je vous le retrouve, il faudrait que je vous l'envoie, mais j'ai lu pas mal de trucs en ce moment récent.
Non, mais alors ça c'est un truc qui m'énerve. C'est comme dans Friends, le truc c'est que ma mère est grosse, enfin elle était grosse. Ma mère était grosse toute ma vie. Donc moi, ma mère, c'est pour ceux qui ne savent pas, elle jouait Madame Bellefeuille dans Les filles d'à côté.
Oui, c'est vrai. C'est une révélation hein, quand j'ai su.
Voilà, ma mère, c'est Madame Alphonse, ma fille à côté. Donc, non seulement c'est une actrice grosse, mais c'est une actrice dont on se moque de son corps dans une série française qui, à l'époque, avait 45% de part de marché dans les années 90. Ouais. Donc, la question de la grossophobie, comment dire, c'est un truc avec lequel j'ai grandi et auquel je pense beaucoup et je lis beaucoup dessus. C'est quelque chose qui me touche aussi de très près parce que moi, je me sens grosse, même si, voilà. La façon dont ces sujets sont traités à la télévision, c'est un truc qui m'a toujours intéressée. La réalité, c'est que 95% de la population est grossophobe. Le fait que ça transparaisse dans certains trucs, ça paraît normal, parce que parfois, comme dans le cas de Friends, c'est le reflet de la société. Friends, c'est le reflet de normes sociales qu'on n'est pas obligé de valider, et d'ailleurs qu'on ne doit pas valider.
Surtout qu'il s'est passé presque 30 ans depuis. Donc
c'est ça,
en même temps,
et c'est des valeurs de trucs. Et le ridicule de Monica quand elle est obèse, c'est le ridicule qu'elle ressent parce que la société lui a dit de se sentir ridicule. Et c'est totalement le reflet de la réalité. À l'époque, ça aurait été comme ça qu'elle l'aurait vécu. Alors oui, heureusement, j'espère que... Enfin, il y a Shrill, que je conseille à tout le monde, qui est super série là-dessus. J'ai aussi fait un podcast sur un podcast qui s'appelle Curve. J'ai parlé de la représentation des femmes et on a parlé à un moment de cette question-là dedans, pour les gens qui sont intéressés, le plugin. Mais ces questions-là de grossophobie, je veux dire, à un moment, le truc, c'est ça, c'est le côté vierge effarouché de tout le monde. Genre, moi, je n'ai jamais rencontré... Je n'ai vraiment jamais rencontré ni un homme ni une femme qui n'a pas fait à un moment dans sa vie des actes misogynes, quoi. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a tous normalisé des choses et on considère comme normales des choses qui ne sont pas normales et on est en train de réévaluer les choses et tant mieux. Et la solution pour arranger, c'est pas de décider que certaines personnes sont pires que d'autres, mais c'est d'examiner collectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, quoi. Comment ça se fait que tous ces trucs-là se passent et qu'il se passe rien? Alors, on le sait entre-temps comment ça se fait. Ok, moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça se fait dans la production de demain? Comment vous organisez? Et pour le coup, les Américains, ils bossent là-dessus. Hein. Moi, j'en ai parlé avec un acteur américain qui me disait, il y a 20 ans, un réal se traitait comme de la merde, tu disais rien. Aujourd'hui, c'est plus considéré comme normal. C'est plus acceptable sur un plateau. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Comment on change?
Les artistes. Merci beaucoup, Yaël.
Je vous en prie, à tous.
Stéphane, dernier mot. Oui, je vais te dire merci, mais si tu veux dire quelque chose.
Non, non, ben j'ai, non, c'est gentil, très merci. Bien, je vous le laisse à vous parce que vous avez plus de choses à dire que moi qui suis complètement pas voyeuriste.
À qui ?
Non, mais ça m'a fait réfléchir. En tout cas, je vais.
Eh ben, dis donc, ça fait combien d'années qu'on essaye ?
Ouais, genre.
Maxime ?
Non, moi, c'est vraiment gentil. Ça a réussi à calmer toutes mes toux.
Ça t'a guéri du Covid ?
Exactement. Ah, donc, il faut l'écouter.
Je vais mettre ça sur mon CV.
Merci à qui ? Merci Stéphane, merci Maxime. Et surtout, merci Yaël pour ce temps précieux.
Merci de m'avoir merci donné Yaël. La parole, de m'avoir permis d'exprimer la complexité de mes impressions et de mes pensées.
Où est-ce qu'on te retrouve ? Dis-nous tout.
Vous me retrouvez, alors ces jours-ci, c'est surtout sur Instagram, YaelKAA, avec deux A à la fin. J'ai un site qui s'appelle icannotsitstill.com. C'est impossible à écrire. Et j'ai surtout une chaîne YouTube où pour l'instant, en ce moment, j'ai commencé à faire des vidéos en anglais sur l'écriture de séries qui s'appelle Geek Avant-Garde. Et je pense que c'est ça que j'ai le plus envie de défendre. Mais en gros, si vous tapez Yaël Simkovitch dans Google, vous allez tomber sur ma page Facebook et là, vous trouverez tout le reste.
Et tes vidéos sur Buffy ?
Eh ben alors, oui, effectivement. Oh mon Dieu, merci. Donc, j'ai aussi une chaîne YouTube qui parle exclusivement de Buffy, que j'ai oublié de citer, qui s'appelle Buffy Slays 20 et qui a commencé pour les 20 ans avec mon twin, mon jumeau perdu retrouvé, David Alphen, qui est un grand, grand Buffy-phile et Buffyologiste comme moi. Et on a... Et c'est rigolo parce qu'on vient de publier une vidéo sur la saison 7 qu'on a enregistrée il y a plusieurs semaines, mois. Et du coup, c'est très drôle parce qu'on parle de tout le délire de Buffy est insupportable dans la saison 7. Enfin, Buffy est cruelle dans la saison 7. Donc, on parle beaucoup d'autorité, de problématiques, de réputation. Et donc, c'est
très... Joss Whedon, quoi.
Et on sent s'en rendre compte, on parlait effectivement de Joss Whedon. Après, je pense qu'on va bien sûr adresser la question. Une fois qu'on aura pris le temps de la réflexion encore plus, on va à un moment en parler parce que je sais qu'on a plein de gens qui veulent notre...
Est-ce que tu t'attends à des révélations plus concrètes à un moment donné ou pas du tout ? Non. Ça restera comme lassé en ce moment, personne ne veut rien dire et on dit des choses à moitié et puis voilà.
J'espère que les gens vont parler pour de vrai, c'est-à-dire que j'espère qu'il y aura un podcast où les gens vont rentrer dans le détail, on va entendre le son de leur voix quand ils racontent leurs expériences personnelles qui humanisent MeToo. Alors, je suis désolée, MeToo a été un grand moment parce que c'était un geste d'empathie, c'était une demande d'empathie. Dire MeToo, c'était pas balance ton port. Dire MeToo, c'est moi aussi, ça m'est arrivé. Je vais partager avec vous mon expérience personnelle. Et c'est des expériences incroyablement personnelles, émotionnelles et vulnérables. Et c'est pour ça que ça a touché tant de gens. Et c'est pour ça que plein de gens qui ignoraient ces questions jusque-là ont tout d'un coup été affectés. Et donc, moi, ce que j'attends, même si, mais que ce soit Carissa Carpenter, que ce soit Michel Trenberg, que ce soit qui que ce soit qui se soit senti maltraité, lésé, qu'ils prennent la parole, mais d'une façon qu'on puisse les entendre humainement. Et moi, je pense, et un jour, peut-être que Joss Whedon finira par en parler. Pour l'instant, il n'a aucun intérêt à le faire, parce que ça ne va faire que raviver les plaies de tout le monde. Mais j'espère qu'un jour, ou alors un jour, moi et Joss, on devient potes et on écrit un livre ensemble sur le sujet. Ça, c'est un fantasme absolu. Non, mais parlons, c'est quoi un artiste difficile, compliqué ? Est-ce qu'il se sent coupable depuis 30 ans ? Je sais pas.
Ça va mal se passer avec lui et puis tu vas faire une déclaration et puis voilà, et puis on va pas avancer Yaël si c'est comme
ça. Je pense
ça.
Pas moi, je, pour moi,
ou alors c'est lui qui va faire une déclaration, on va dire Yaël et
Yaël le harcèle, mais non, mais pour moi Joss c'est un peu un Stanley Kubrick. Avec qui il s'entendait pas disaient qu'il était un monstre et qu'il les traitait comme de la merde, et les gens avec qui il s'entendait le trouvaient une crème et adorable.
C'est vrai.
Moi, j'ai toujours pensé Stanley Kubrick était un homme extrêmement intelligent qui n'avait aucune patience pour les gens. Il se considérait comme moins brillant ou intelligent que lui. C'est consciemment vrai. Ou inconsciemment, dès que quelqu'un n'était pas à son niveau, il le traitait comme de la merde.
Ça explique beaucoup de choses chez moi.
Je pense que c'est possible que Joss Whedon soit comme ça. Et je vais vous dire, je suis très heureuse de ne pas être à la tête d'une équipe de je ne sais combien de centaines de personnes.
Pour l'instant.
Parce que t'as pas envie d'être à côté de moi quand je reçois un mail que je trouve stupide de quelqu'un.
Mais oui, la complexité de l'être humain, c'est ça, de toute façon. Bon, merci beaucoup. Petite pub pour le podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Si vous voulez voir aussi autrement Buffy, enfin voilà, ses analyses, petites critiques d'épisodes, le podcast Pourquoi Buffy c'est génial qui était déjà venu une fois ici. Merci beaucoup, Yaël. Merci Stéphane, merci Aki, merci Maxime.
Avec plaisir.
Bye.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Yaël, tu reviens quand tu veux.
Avec plaisir.
Merci, à bientôt.